Ensuite, il y a donc la pratique de Vajrasana. Éventuellement, tu peux faire quelques mantras de Vajrasana pour purifier aussi, pour se reconnecter. Purifier, ça ne veut pas dire qu'on est impur. Il ne faut pas avoir cette idée-là. Après, on risque de sombrer dans la culpabilisation, ce que j'appelle le syndrome du pénitent. Quand on est pris du syndrome de pénitent, on ne trouvera jamais une punition assez grande pour se sentir pur. Parce que c'est juste un voile qu'on se fait, quoi. Donc il ne faut pas être dans la pénitence, même si on a tous des reproches à se faire. Hein, on est pas, je dis souvent, personne n'est irréprochable. Peut-être qu'une fois éveillé, on est irréprochable, mais même un Bouddha éveillé, comme Sakyamuni, a énoncé ses vies antérieures. Même Milarepa, avant d'être éveillé, a été un assassin. On ne peut pas dire qu'il y a quelqu'un d'irréprochable, comme ça, qui sort comme ça. Le Dalma est le premier à dire ses erreurs, hein. Son manque de patience, quand il a un moustique sur le bras, voilà. Parce qu'on se fait des films avec des êtres idéaux, etc. Et finalement, là aussi, ce n'est pas le syndrome du pénitent, mais c'est le syndrome de la délégation. Ben, je ne peux pas m'éveiller, je ne peux pas être comme lui. On se fait des prétextes, des mensonges, des obstacles, des entraves, etc. Et des fois, on prétend vouloir s'éveiller, mais ça ne nous intéresse pas vraiment, quoi. Puis on ne sait pas trop de quoi ça retourne. Ou alors, c'est justement, ça relève d'un fantasme. D'être irréprochable. Éveillé, ça veut dire que tout le monde nous aimerait. Ou qu'on serait immortel, enfin des trucs comme ça. Donc Vajrasattva, c'est pas se purifier dans le sens qu'on serait impur. Vajrasattva, c'est un terme qui existait avant même qu'il y ait des divinités humanoïdes, hein, anthropomorphiques. C'est pas un être, Vajrasattva, c'est le principe même de la nature d'esprit. Et dans le Sahaja, c'est la nature du Sahaja, qui est de la nature de Vajrasattva, c'est une primordialité indemne de nos illusions. Non pas qui a été nettoyée, purifiée. Il y a une immunité des illusions et des conséquences de nos illusions, c'est-à-dire le karma. Le karma souillé des illusions, bien sûr, le karma souillé, hein, parce qu'il y a le karma éveillé. Donc Vajra Sattva, ça veut dire notre être, hein, Sattva, Vajra immuable, qui, comme le diamant, quoi, rien peut casser le diamant. Enfin, aujourd'hui, si, peut-être. Cette immuabilité. Mais le diamant est associé à l'unité de convergence de éléments espace et éléments terre. C'est la boucle qui fait que tout est indestructible parce que vide de caractéristiques propres. Indestructible, ça veut dire rien ne disparaît. Tout est une transition de phase parce que c'est pas, il n'y a pas de réalité propre. Rien ne disparaît, rien n'apparaît. C'est transitoire, transapparition constante. C'est que des transitions de phase. Tu fais chauffer de l'eau liquide, elle ne disparaît pas. Elle a changé de phase, elle a changé d'aspect. Et très dans un glissement. C'est transitoire. Même notre corps physique, il ne disparaît pas. Il changera de phase. Soit il se dégrade dans la terre, hein, ou il passe dans les estomacs des vers de terre, enfin des asticots. C'est une dilution, mais rien qui disparaît, c'est une transition de phase. C'est pour ça qu'on dit le corps ne meurt pas. Donc avec Vajrasattva, il y a cette notion-là, hein, immaculée, indemne, immunisé contre les pires des actions, Parce que toutes nos actions, les pires, sont du fait d'illusions, d'ignorance, qui nous empêchent d'avoir de l'empathie, éventuellement, bien sûr. On peut dire qu'on fait des choses pas sympas, pas méchantes, hein. On fait des choses méchantes, par agression, etc. Mais parce qu'on est en quête de bonheur, malgré tout. Mais on n'a pas les bons moyens. On n'a pas les bonnes méthodes, et surtout, on n'a pas la bonne intelligence. Donc Vajrasattva, c'est vraiment recontacter, ou ne serait-ce que avoir confiance qu'une part de nous-mêmes, enfin, c'est même pas une part, hein, c'est même pas un secteur de nous-mêmes, notre nature fondamentale, qui nous est, qu'on se refuse, en quelque sorte, hein, elle ne nous est pas refusée, mais qu'on se refuse à nous-mêmes, hein, ou qu'on est dans l'incapacité de renouer à cela, hein, notre part fondamentale, enfin notre aspect fondamental, notre nature fondamentale, n'est pas endommagée, entamée. Voilà. Elle ne peut pas être polluée. L'illusion et le karma de ces illusions, c'est adventis. C'est le terme technique, adventis. C'est-à-dire un voile qui s'interpose, comme le voile d'un rideau. Tu ne vois pas le paysage tel qu'il devrait être, hein, mais le rideau n'entame pas le paysage. Il suffira d'enlever le rideau. Hein. C'est aussi simple que ça, Vajrasattva. Alors on peut avoir des techniques avec des mantras, machin, ça. On peut aussi avoir une méditation Vajrasattva naturelle, le Mahamudra, le Sahaja. Rester en sa nature primordiale. Pas besoin de mantra, pas besoin de visualiser une forme anthropomorphique, etc. Ça aide, ça peut aider, hein, bien sûr. C'est fait pour aider. Hein. Mais ça n'a pas de réalité propre non plus. Donc notre part authentique. Et des fois, ça va. Il n'y a même plus besoin, des fois, de méditer pour contacter ça quand on est dans des moments graves d'authenticité. Quand on prend conscience de, hein, quelque chose qui n'est pas très louable. Eh bien, on touche son authenticité aussi. Dans le même moment, c'est co-émergent. D'accord ? Et de temps en temps, ben, il faudra aller verser, vite, vite, aller vers cet abcès-là qui est prêt à crever. Et on a tous vécu des moments où un abcès est crevé et qu'on touche cette force de rédemption, plus ou moins, c'est pas les grandes rédemptions comme Saint Paul ou Médard Épard. Mais des petites rédemptions qui voient que on n'a pas besoin d'être des grands assassins aussi pour avoir une rédemption et contacter notre Vajrasattva. Ce Vajrasattva, ça peut être porteur pour comprendre le poids. Hein. Alors on fait le poids d'Amitabha avec un aspect de Shenrezi. C'est pareil. Notre être primordialement dans la compassion, dans la compréhension. Compassion, ça veut dire comprendre. Hein. C'est pas compatir. Tu te souviens, hein. Compatir, il y a un con qui pâtit avec l'autre. Ça fait deux cons. Quoi. Hein. Non, mais c'est ça. Hein. Non, il ne s'agit pas de ça. Hein. C'est comprendre. Comprendre qu'on peut être porté par des choses pas très sympathiques, quoi, l'agression, l'orgueil, la jalousie, voilà. Et même le désir, attachement, surtout l'attachement, hein, ainsi de suite. Comprendre l'autre. Donc comprendre, il faut avoir cette idée d'embrasser toute une situation dans une relation à deux, embrasser l'autre comme soi-même, une vision globale d'embrassement, enfin je ne sais pas comment on peut dire. C'est-à-dire reconnaître nos mécanismes égocentriques, et reconnaître les mécanismes égocentriques de l'autre, l'alter égocentrique. Et on est tous animés par un moteur universel, on aspire au bonheur. Et des fois, ça peut être au détriment de soi-même, au détriment de l'autre, etc. Ou voué à l'échec, parce que aspirer au bonheur, c'est un fait, on le fait, donc il n'y a pas besoin de chercher plus, mais on n'a pas l'intelligence suffisante. La conception de bonheur est souvent erronée, ou fantasmée, et puis la manière d'y arriver, est faite de palliatifs, quoi. Des satisfactions à court terme. On se satisfait de satisfactions à court terme, même sur 20-30 ans. Hein. On cherche tout aux jeunes, on cherche à avoir un bon boulot, une femme ou un homme, voilà, etc. Une maison, etc. C'est du court terme, même si c'est on envisage sur 40 ans de sa vie, ou jusqu'à sa mort, ou jusqu'à sa retraite. C'est du court terme. C'est du palliatif, quoi. Donc, nos façons de concevoir le bonheur et aspirer au bonheur manquent d'envergure. Il faut de l'ambition au sens spirituel. L'ambition, c'est aller au plus profond, enfin dans la nature subtile, universelle, immuable, primordiale, de tout temps, de toute éternité, notre être fondamental, de toute éternité. Donc l'idée de Vajrasattva, ça peut être une bonne idée, hein, d'introduire un objectif clair, pas fantasmé, voilà, et qui ne relève pas du court terme, et même qui ne relève pas du long terme, qui relève de l'immédiateté, de l'instantanéité, du non-temps, de la mortalité. Il ne faut pas non plus avoir des projets à long terme. On peut se perdre aussi là-dedans. Hein. Un projet fulgurant dans l'instantanéité. Direct. Ça peut prendre du temps, ça c'est clair. Mais ce ne sera pas parce qu'on met à plus tard. On voit loin à long terme, mais on remet plus tard la rencontre instantanée à sa propre nature. On pourrait faire un poids avec Vajrasattva, on peut faire autant de poids qu'on peut, qu'on veut. C'est pas un problème. Le simple fait du Sahajama Mudra ou du Dzogchen, ce sont des poids, des transferts. Hein, si on va faire un transfuge, d'accord, d'inspiration et de reconnaissance, hein, tout simplement. Si on nous dit placez-vous dans la nature de l'esprit, eh ben, on fait un poids. Poids, ça veut dire déménager. On délocalise nos préoccupations, d'accord, ainsi de suite. On délocalise nos objectifs, etc., etc. Et ensuite, avec un objectif bien clair, bien comprendre la nature de l'esprit, l'envisager, bien l'envisager, bien la concevoir, pour que ça ne devienne pas un fantasme, et voilà, s'y installer. Simplement cette force-là du Mahamudra, Dzogchen, la voie directe, Satori, ou je ne sais pas, Zazen, qu'importe, on s'installe en la nature de notre esprit. Oui, mais tais-toi. Tu vois? Oui, mais est-ce que je suis sûr? Tais-toi. Installe-toi. La vue, en imposant la vue, on crée la réalisation. Et ce n'est pas de l'autosuggestion. D'accord? Parce que cette vue est correcte. Elle n'est pas un fantasme. Elle est correcte, éprouvée par des êtres éveillés qui nous ont précédés. Et on peut leur faire confiance, quoi. Et même que ce soit un chrétien, etc., on parle tous de la même chose. Saint Augustin, il parle de son authenticité. Quand il dit « j'ai cherché Dieu à l'extérieur », il est intime. Hein, c'est plus qu'intérieur, hein, intime en latin. C'est authentique. Après, il a son jargon. Il ne va pas dire « non, le mot Dieu, c'est pas un très bon mot aussi, il est beau. Hein, » d'accord. Mais nous, on dira Bouddha avec son jargon. Mais c'est parce qu'on dit Bouddha qu'on est dans le plus juste. Parce que Bouddha peut être enfermé de plein de fantasmes. Hein, d'accord, ça peut être très séduisant d'entendre Bouddha. Oh, Bouddha. Voilà. Donc le pourra, Hein, on dit Mahamudra, hein, si on reste dans la lignée du Sahaja Mahamudra, Mahamudra, on dit c'est le yoga ultime, le yoga sans caractéristiques. Mais des fois, on n'y arrive pas. Alors c'est une voie directe, il faut toujours se surveiller dans cette voie directe. Oui, moi j'ai une voie directe, ça me suffit. Ça fait combien de temps que tu médites la voie directe? Oh, ça fait 20 ans que je médite le Mahamudra. Il faudrait que, si elle est si directe que ça, tu devrais être éveillé au bout d'une journée. C'est ce que disait le premier lama Nyingmapa à Milarepa. Hein? Tu médites le soir, tu es éveillé le lendemain. Hein? Alors, c'est une voie directe? Oui, mais ça prend du temps. Ah oui, mais pourquoi ça prend du temps? C'est pas normal. Même les Zazen, on dit c'est une voie directe, il n'y a pas besoin de tantra. Un peu arrogant en disant nous on n'a pas besoin de tantra, pas besoin de voie graduelle, etc. N'empêche, tu poses la question, ça fait combien de temps que tu fais des zazen? Ça fait 20 ans. Et là il faut se poser la question, elle n'est pas si directe que ça. Il faut la provoquer, la voie directe, l'immédiateté en sa nature. Et si on n'y arrive pas, c'est simplement parce qu'on a des obstacles. On a des fausses idées, et où on a des difficultés, on ne sait pas se concentrer, etc. etc. Et là, il faut visiter et avoir une gymnastique pour enlever ces obstacles, pour que la voie directe devienne effectivement directe, qu'on ait tous les outils pour aller plus vite. Comme pour des outils de bricolage, on va changer nos outils, on va prendre des outils un peu plus sophistiqués. J'arrête le tournevis, je prends une visseuse électrique. C'est un peu ça. Donc des fois, on a besoin de voies graduelles qui s'imposent. Mais on n'impose pas la voie graduelle. Aujourd'hui, c'est un peu la mode. J'impose la voie graduelle parce que les voies directes, ça se mériterait. Non, là, c'est... Personne ne peut s'autoriser de dire ça à un élève. J'ai entendu, hein, des... Non, il faut attendre de faire les préliminaires... Avant de faire le Mahamudra, tu changes de lama. Tu dis, il se juge comment? Enfin, il n'a pas à juger ça, d'accord? Il faut écouter la motivation, et puis vas-y, essaye, et reviens me voir, et après on pourra diagnostiquer les obstacles, les empêchements, et éventuellement, tu vois, il faudra peut-être faire un peu de procération avant. Les préliminaires qu'on appelle préliminaires du Mahamudra, hein, c'est qu'au XIIe siècle, ça s'est incorporé dans la pédagogie tibétaine, là, hein, purement tibétaine, pas bouddhique. Hein. Enfin, bouddhiste, mais dans le milieu tibétain. Et ça, ça a raison d'être, hein, bien sûr. Hein. Des yogis, des méditants qui ont dit, tiens, on va essayer de créer ça, 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 ça. Donc, Mahamudra, c'est le yoga des yogas. Dans une approche Mahayana, c'est le samadhi des samadhis. On l'appelle le samadhi vajra, qui n'a rien à voir avec les samadhis de samatha, vipassana, mais une combinaison et surtout une force fulgurance. Les samadhis de samatha peuvent être des entraves parce qu'on peut se tromper en faire des finalités. Et là, ça devient des paliers. C'est-à-dire où on sont dans un état mental. Et on y reste parce qu'on se trompe, on pense que c'est cela la finalité. Alors les samadhis de samatha, si on en reste là, bah, ça fait les renaissances dans le monde des dieux, hein, une sorte de trip, des pseudo-félicités, hein, qui sont dues au contentement, voilà, enfin, aucun intérêt. Une sorte d'autisme, de léthargie, on appelle ça miyowa, c'est-à-dire neutralité, hein, neutralité, une anesthésie, hein, de sensation, d'expérience, l'agrégat sensation. Donc il faut se méfier. Les samadhis de vipassana, ils sont toujours accompagnés quand même de révélations, hein, de, voilà. Mais peut encore rester quelque chose, la discrimination, etc. etc. pour ça qu'on combine tout ça dans le Mahamudra. Samatha, Vipassana, on combine. Et surtout, c'est pour ça qu'on appelle le Mahamudra le Samadhi Vajra. Mais ce n'est plus un état. C'est la reconnaissance de notre nature. D'accord ? Et après, on vaque à la vie. Donc, selon le contexte de l'enseignement, on parle d'un Mahamudra propre au Mahayana, un Mahamudra propre au Vajrayana. Bon, il n'y a qu'un seul Mahamudra, etc. Le contexte d'enseignement, c'est au gré de la communication entre l'élève et l'instructeur, tout simplement. Tu vas te plonger dans les livres du Sahaja Mahamudra, le Chant de Plénitude, oui, le Sahaja Siddhi.
J'ai déjà lu, mais je suis en train de relire. J'ai lu 70 pages.
Pardon ?
J'ai déjà lu 70 pages.
70.
70. Depuis le petit peu ce matin et ouais. Ce soir.
Voilà. Alors, des fois, ça fait polémique. Mahamudra du Mahayana, Mahamudra du Vajrayana. Non, c'est contextuel. Il ne faut rien se refuser pour arriver à réaliser la nature de l'esprit. Donc Mahamudra, au niveau des yogas, c'est pareil. On dit que c'est le yoga ultime, non caractérisé. Et par défaut, pareil, une voie graduelle. Les six yogas avec caractéristiques ou caractérisés. Six yogas qui, dans la lignée Shampa, la lignée de Niguma, Sukhasiddhi, entre autres, ces yogas sont des préliminaires. C'est des préliminaires. Pour beaucoup de gens, c'est quelque chose d'ultime. Non, c'est des préliminaires. Tout aussi préliminaires que des prostrations, que l'offrande du mandala, le guru yoga. D'accord ? C'est des préliminaires qui vont permettre d'amener les situations de la vie sans avoir à changer de vie. On utilise toutes les situations de la vie. D'accord ? Sans estimer que la vie que je mène ne convient pas à la voie directe. C'est stupide. Ce ne serait pas une voie directe. Alors on a des six yogas qui utilisent les différentes situations de la vie. Alors, trois yogas qui participent des situations de la vie au sens notre vie biologique. Et trois autres yogas qui profitent des situations de la vie, mais que nous on appelle la mort. Ça reste toujours une vie, psychique en tout cas. Donc là, dans le cycle mort et non-mort, on aborde les trois yogas qui ont trait à la mort. Et trois autres yogas qui ont trait à une vie biologique, c'est le yoga Tummo, le yoga Gulu, corps illusoire, et le yoga du rêve. D'accord ? On peut y ajouter aussi le yoga de clair-lumière. Mais simplement, l'entraînement du yoga de clair-lumière utilise une situation de la vie qu'on appelle le sommeil, la phase d'endormissement, pour s'entraîner à l'approche de la mort, au sens, la mort, le moment clé de la séparation du corps et de l'esprit. Donc, le yoga de clair-lumière, c'est un peu un yoga charnière. on s'entraîne hein, tout le temps qu'on a un corps biologique, donc on va passer par les phases de sommeil, on utilise le sommeil pour s'entraîner, et le sommeil est le singe de la mort. Les mécanismes sont semblables. Les mécanismes de résorption, il y a des mécanismes de résorption aussi dans tous les samadhis, hein. Résorption des cinq éléments, des quatre premiers éléments dans Sabata en tout cas. Et les petites morts, hein, constamment. J'ai un ami qui enseigne le Zazen, il disait que Deshimaru disait « Méditer, c'est mettre un pied dans la tombe ». Il avait une vision prophétique d'une image. J'ai dit « Non, il a raison ». Quand tu passes par les samatha, tu as les résorptions des quatre éléments, tu mets un pied dans la tombe. Si tu... Et par les, à base de ces résorptions des quatre éléments, tu obtiens des aptitudes de la psyché, qu'on appelle samatha justement, capacité de savoir parce qu'on s'est tu. J'aime bien cette. On s'est tu. Enfin, je. Je m'égare, non, ça va. Donc le yoga, c'est pour mettre en situation, utiliser toutes les situations de la vie, celle de la vie biologique, comme celle de la vie psychique post-mortem, enfin, ou au moment de la mort. Il y a un fameux chant de Marpa, comme ça, quand il rentre, je crois de son deuxième voyage en Inde, où il a rencontré à nouveau Naropa, il a approfondi des choses, etc. Il a eu les enseignements des yogas, etc. Et quand il revient dans son village, les gens ils disent « Mais t'as pas changé, t'es toujours le même, t'es un colérique, un chieur. » J'aime bien un peu les... me moquer un peu comme ça. Marpa, Milarepa, je sais. Mais on peut envisager un bougon, quoi, hein, un ronchon. Moi, ça me décomplexe, hein, de dire ça, c'est juste pour moi. Hein, je fais. Mais voilà. Mais il chante un chant magnifique où, ouais, mais j'ai à disposition un yoga à tel moment, un yoga pour tel moment, vous voyez. Alors, yoga de tout mot, hein, tout mot va... prendre comme intelligence le désir. Il faut l'entendre au sens yogique et même au sens de l'abhidharma, au sens du bouddhisme, bouddhique. Désir, même si c'est un mot français qu'on utilise, c'est une intelligence. D'accord ? C'est-à-dire, tu te mets en rapport à quelque chose, intelligéré, et ensuite tu fais un choix. Mais pour avoir un bon discernement, pour faire un bon choix, on va, si j'ose dire, hein, eh ben, il faut de l'intelligence. Intelligence, c'est très important comme mot. On a des mots qui définissent bien les choses en français. Donc, intelligéré, enfin, tu regarderas les étymologies, c'est toujours important. On a une tradition spirituelle aussi, hein, théologique, éventuellement, psychologique. Ah. Donc autant utiliser nos mots. Après, faire un parallèle avec les termes sanscrits, c'est possible, hein, bien sûr. Désir est une intelligence. Ce qu'on appelle les kleshas, c'est des intelligences distordues, qui dysfonctionnent. Mais ce n'est pas par manque d'intelligence, c'est simplement, c'est comme un logiciel, une intelligence. C'est un logiciel, mais il y a un virus. D'accord ? C'est tout simplement toujours ça. Quelque chose d'adventiste, de surajouté. D'accord ? Un bug, un grain de sable. D'accord ? Une poussière dans l'œil. D'accord ? C'est quelque chose de surajouté, qui n'est pas naturel. D'accord ? Eh bien, on a une intelligence et on y met un virus. Et si on dit une émotion perturbatrice, ben, ça devient comme clé en main, comme ça, à l'emporte-pièce, il y a quelque chose comme étant une émotion perturbatrice. Donc déjà, on va plus pouvoir utiliser d'intelligence, d'analyse, de réflexion. Donc, désir, d'accord, c'est une intelligence. Il faut le prendre comme une intelligence. D'accord. C'est-à-dire que tu te mets en interrelation avec un objet, le sujet et la connaissance, comme on dit, voilà, etc. Et cette intelligence a plus ou moins des bugs qui vont faire que ça va être disproportionné, ça va être plein de confusion, plein d'attentes, etc. etc. Et ce désir, donc, au lieu d'être fonctionner en toute intelligence, va être distorsion. C'est ça l'idée. C'est-à-dire que notre lucidité ne va pas être va pas fonctionner à plein. Quoi. On ne va pas être dans une large lucidité. D'accord. Les kleshas, la définition de kleshas, c'est ce qui trouble la paix de l'esprit. Mais la paix pour être lucide, pas pour être tranquille. D'accord. Comme de l'eau dans laquelle il y a de l'argile. Si tu agites constamment l'eau, hein, et ben, il va y avoir l'argile qui trouble la limpidité de l'eau. Et ce trouble va troubler ton intelligence. D'accord. Et donc tu vas dire que l'eau que tu vois comme étant une eau boueuse, tu vas dire que c'est la nature de l'eau. Simplement. Ben attends, pose-toi, reste en paix, mais pour gagner en lucidité. Donc des fois on dit que les chats, ça trouble la paix. Mais pour le paresseux, la paix c'est chercher à être tranquille dans l'opacité mentale, la léthargie. Et là il y a une grossière erreur. Donc quand on dit que les chats troublent la paix de l'esprit, c'est trouble une limpidité, c'est une clarté, une limpidité qui me permet de voir en toute lucidité les choses dans un discernement. D'accord. Et dans désir, il y a une intelligence qui est celle du discernement. D'accord. Le désir est un moteur, hein, inhérent à l'être. Il n'y a même pas besoin de le déclencher, de le générer. Hein, c'est inhérent à l'être. D'accord. Et dans ce désir, il faut voir un choix qui est fait. C'est déjà un discernement. D'accord. Le désir est dû à un manque qui induit une impulsion d'aller vers. D'accord. C'est une direction. Et ce manque n'est pas obligatoirement inavouable. D'accord. Quel rapport on a à ce manque? Et c'est ce rapport à ce manque qui va faire toute l'intelligence dans cet élan vers. Si ce manque, on ne comprend pas cette idée de manque et on pense que c'est possible de le combler. D'accord. Ben, le désir va être va avoir l'espoir d'aller vers l'objet pour combler un manque. Et là, va créer un rapport avec l'objet qu'on appelle l'attachement. C'est-à-dire, alors c'est gentil au début, l'élan vers un objet, que ce soit, alors je dis souvent, que ce soit une frite, une pâtisserie ou une blonde, ou un grand brin, un beau brin, hein, etc., une maison, une voiture, l'objet va être l'instrument, va être instrumentalisé pour combler un manque. Et le désir garde cette capacité de discernement, mais c'est plus un discernement englobant, ça va être une discrimination. C'est là où se fait la discrimination. C'est-à-dire, on va imputer, attribuer à l'objet la charge, le devoir, le soin de combler un manque. C'est pas décidé, bien sûr. C'est dans les mécanismes du subconscient. D'accord. Des fois, ça peut être décidé aussi pour des gens qui ont capacité d'emprise sur les choses, manipuler, les manipulateurs. Etc. Mais nous, dans notre quotidien, on n'est pas des manipulateurs. Ça part de la bonne volonté, la bonne foi, mais un manque de sagesse, simplement, d'intelligence. Et donc, l'objet, on va lui imputer quelque chose qui crée ce qu'on appelle l'attachement. D'accord ? L'attachement, c'est pas être attaché à ses enfants, être attaché au sens du devoir pour son travail, être attaché à son travail. Attaché, ça veut dire, ici, aliéné. Hein ? C'est-à-dire, mettre un contrat sur un objet. Un contrat en rapport au fantasme que j'ai du manque, que j'ai la possibilité de combler. D'accord ? Donc, à l'objet, on lui prête une tâche, on lui donne une tâche, un contrat, etc. Qui, grosso modo, je le résume en « Je te charge de combler mon manque et surtout me déçois pas. » On fait ça pour une pâtisserie, pour une personne, pour une société, pour un président de la République, quand on vote, etc. On vote par désir, dans un désir. Alors les gens qui votent plus, ils ont plus ce désir, effectivement, ils ont peut-être plus l'espoir, ils font plus de fantasmes, etc. On peut, même un président, les élections ne peuvent pas combler leur frustration. Et ça procède d'une réalité aussi éprouvée, d'accord, etc. Après, les choix de faire voter, pas voter, c'est autre chose. Mais c'est pareil. D'accord ? Donc, bien entendre, désir est une intelligence, d'accord ? Mais il y a un virus. Le rapport à ce qui provoque le désir, c'est le manque. Maintenant, si on voit que ce manque, alors, ça frôle le fatalisme, le manque a pour nature de jamais être comblé. D'accord ? Ça va ? Eh bien, on a un autre rapport avec l'objet. On va discerner l'attirance, cet objet, pour X raisons. Un beau tableau, l'attirance, parce qu'on a une faim, puis j'aime bien le sucré, voilà. L'attirance, c'est le béaba du désir. Mais si c'est pas pour... On n'a pas le projet de combler, d'accord ? On ne se fait pas de faux espoirs. Donc, l'objet ne va pas être aliéné nos faux espoirs, nos fantasmes. On va être dans l'instant même. Il n'y a pas lieu de donner, mais je ne veux pas me refuser le plaisir qui m'est éventuellement proposé. Parce que je sais par expérience qu'il y a le plaisir de manger une pâtisserie ou de faire l'amour à une blonde. Il y a un plaisir. Mais ce plaisir, on va simplement le constater. Enfin, l'expérimenter, c'est tout. On n'est pas là pour, dans le masochisme, il faut à tout prix ne pas avoir de plaisir, etc. Parce que, voilà. Non, il ne faut pas chercher à combler le manque. Vous voyez la différence ? Et ce manque, si on arrive à accepter ça, on accepte la vanité. Si on assume la vanité, mais on transcende après, on sublime. La vanité, c'est la vanité de justifier nos désirs en projetant sur l'objet des attentes. La vanité, elle est faite des rêves que nos désirs souhaitent d'en combler un manque. Quand on a une expérience de vanité, on est là à pouvoir, enfin on est là à une lisière, est-ce que tu veux admettre une fois pour toutes, il n'y a pas possibilité de combler un manque. C'est juste ça. On crée du sens qui n'est pas du sens. On crée du sens pour justifier nos désirs et justifier la démarche de combler un manque et d'espérer qu'un manque peut être comblé. Ça va ? C'est subtil, d'accord ? Donc si on a l'expérience de vanité, c'est que on se trompe de sens. On donne du sens que nos désirs souhaiteraient. D'accord ? Alors que le sens, il y a lieu d'avoir du sens, bien sûr, mais c'est pas au désir de décréter de mettre du sens aux choses. D'accord ? D'attendre que les choses nous donnent du sens. Le sens est dans l'instantané. J'ai un plaisir, ça a du sens. Ou simplement, de jouir de ce plaisir. Il y a un déplaisir, ben ça a du sens. Je vais jouir de ce déplaisir. Jouir, ça veut dire faire usage. Hein? Et voilà. Je goûte la pâtisserie. Ah, j'ai un petit dégoût. Je repose la pâtisserie. Non, je ne le sens pas. D'accord? Le seul foie qui peut créer une petite réduction. Hein? Oh là, ta saturation, là, le foie. Tout simplement. Plaisir, déplaisir. Hein? Il n'y a pas plus que ça. Et là, on est dans l'intelligence du désir. Et par cette intelligence du désir, ne cherchant pas à combler un manque, ce désir est discernement. Dans le désir même, il y a le discernement. Si on ne part pas sur des fantasmes, des faux espoirs, des utopies de combler un manque. Et c'est ça l'idée du yoga de Tummo. On stimule le désir, etc. On peut aussi utiliser une union, imaginer en union, yabium, hein, ou utiliser une parèdre réelle, hein, en chair, en os, ou, comme dit Marpa, à chaque fois je fais l'amour. D'accord ? Parce que c'est le rapport sexuel est une... c'est usé à plein cette capacité de désir. D'accord ? Parce qu'il y a la charité, deux âmes qui s'aiment, enfin, l'union, etc. Mis à part les perversions qu'il faut mettre de côté, hein. Viol, toutes sortes de perversions. Hein. Donc l'approche de Tummo, c'est stimuler le désir. D'accord ? Et quand le désir est déjà ce logiciel où on met moins de fantasmes, moins d'espoir, moins d'utopie, de combler un manque. Et bien, ce qu'on a éprouvé comme étant un manque, d'accord, c'est le vacuum. C'est la vacuité. D'accord. C'est pas par hasard qu'un manque, ça fait peur. Manque de sens. Manque de pâtisserie ou manque de rapport sexuel, c'est très anecdotique. Dessous, il y a réellement un manque de sens. D'accord. Manque d'affection. Derrière, c'est le manque de sens, ma vie. Si on est humain, hein, on est né du désir d'être en lien à l'autre, dans la charité, dans l'amour, l'empathie. Et bien, effectivement, on peut avoir un manque d'affection, c'est louable. C'est pas suspect comme certaines psychologies, c'est pas normal que tu sois en manque d'affection, ta mère t'a trop aimé. Tu vois, c'est une sorte de psychologie dans la suspicion, quoi. Non, t'as un manque d'affection, c'est, il faut l'écouter, c'est valide, on va dire, il faut l'écouter. Hein. Mais on peut s'en sortir pour comprendre, ça relève d'un manque, il faut surtout pas le combler, justement. D'accord ? Parce que c'est ça qui va être la force de notre bodhicitta, plein de choses comme ça. D'accord ? Donc derrière le mot désir, il y a discernement. C'est une intelligence, mais des fois, cette intelligence a un petit bug et désir va créer, par exemple, l'embarras du choix. Mais c'est pareil. C'est une sorte de discernement, mais on ne sait plus hein, d'accord, comment agir, qu'est-ce que je dois choisir, etc. Mais c'est la même chose, la racine du désir, c'est le discernement. Ce n'est pas une émotion. C'est un mode de perception, une intelligence qui nous met en rapport à soi-même, à l'autre, intelligéré. D'accord ? Au sens français du mot émotion, l'émotion vient après. C'est-à-dire l'usage de cette intelligence avec bug ou pas bug. Virus, pas virus. D'accord ? Et l'émotion vient après. Et l'émotion, c'est attachement, effectivement. C'est une motion hein, qui sort de. Hein. Une motion, c'est une intention, une motilité, etc. D'accord ? Devant l'espoir de combler un manque, on aura une motilité, une intentionnalité. D'accord ? Donc là, c'est l'impulsion à l'envers. D'accord ? Et l'impulsion, c'est de faire de l'autre, ou de la pâtisserie, ou d'une bonde, objet de désir. et prétendre que c'est l'objet qui me crée mon désir, qui justifie le sens que j'ai, d'accord, vis-à-vis de ce désir, etc., et qui justifie donc de mettre un contrat sur l'autre, l'attachement. D'accord ? Si on veut être strict dans les mots, émotion, c'est pas le désir. Le désir, c'est une perception, une intelligence, hein, de rapport à un logiciel. D'accord ? Et l'émotion, c'est le document qui va s'en ressortir. J'utilise un logiciel, j'ai un document. Hein ? Ben, le document qui en sort, ben, si on n'a pas fait attention, il est contaminé du virus, lui aussi. D'accord ? Hein ? Et je le renvoie à l'autre. Je redonne mon document sur le clé USB, et ben, on renvoie notre contamination à notre objet de désir. D'accord ? qui réagira, si c'est un être en face de soi, bien sûr. C'est rare, qui acquiescera ou pas, c'est autre chose, et lui-même sera en intelligence avec ça. Voilà. Au début, c'est agréable d'avoir un contrat sur de l'autre. Être l'objet de désir de quelqu'un, c'est bien, au début. Hein. Jusqu'à un moment où, en fait, je suis vraiment un objet de désir. Quoi. D'accord ? Donc, tout mot, c'est ça le cœur de tout mot. Hein. C'est faire du désir une clé du discernement sans virus. D'accord ? On a les mouvements de souffle à faire, des pranayamas, etc., etc. On stimule le désir, etc., pour côtoyer un manque qui ne soit pas une peur qu'on va chercher à combler, ou à anesthésier, hein, ou à refouler. D'accord ? Les gens refoulent le manque. Hein. Ils disent ils maîtrisent le désir, non, ils refoulent le manque. Hein. Alors ça fait des héros. Hein. Ça y est, hein, je suis chaste. J'ai un lama qui me disait, un Tibet, lama, t'aimes pas ? Il disait, celui, un moine qui dit j'ai plus de désir, c'est un menteur. Ou alors si, il y arrive, mais alors c'est très grave. D'accord ? C'est pas possible. Hein. Il a tué le moteur. Et le Bouddha Sakyamuni le dit lui-même. Une consigne à avoir si on veut être moine, c'est d'avoir du désir. Par exemple, il interdisait les eunuques. C'est marqué eunuque. Des gens qui se sont fait une. Comment un bromure mental. Vous voyez, ça n'a aucun intérêt d'être chaste si tu n'as plus de désir. Parce qu'à la chasteté, on ne prévoit pas la chasteté comme une performance qui va tuer le désir. C'est grave. La chasteté nous met à assumer le manque, à faire face à un manque. Et ensuite, à partir de là, de discerner, et ainsi de suite. Après, on peut continuer à être chaste ou pas. Mais on peut être chaste pour une semaine, et en une semaine, on peut avoir une véritable expérience. Si on doit faire tout mot, effectivement, on préconise la chasteté. Mais si c'est 6 mois de retraite, c'est 6 mois de chasteté. Mais c'est une ascèse, et non pas une moralité. D'accord ? C'est une ascèse pour se confronter au manque et voir la vraie nature de ce manque, c'est du vacuum. D'accord ? Et là, on est en vacances, non pas parce qu'on n'a plus de désir, on est en vacances qu'on n'a plus d'espoir de combler ce manque. Il n'y a pas lieu parce qu'il ne fait pas peur. C'est un vacuum. D'accord ? Alors, une vacance. On se met en vacances d'un projet irréalisable. Et souvent, il y a des personnes qui rendent les vœux de moine parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils n'arrivent pas à réaliser ce qu'ils attendaient de la chasteté. Mais ce n'était pas ce projet. Ou alors, si c'est arrivé, c'est grave. Ils font des sortes de ceintures de chasteté avec l'esprit. Ils se blindent, etc. Ils se refusent, ils font un déni. Et ils ne rencontreront pas ce vacuum. Donc dans tout mot, il y a l'association, hein, de félicité, vacuité. Trouver ce beau mariage, cette coémergence, vacuité, félicité, félicité, vacuité. La nature de la félicité est vacuité. La nature de la vacuité est félicité. Comme pour compassion, vacuité, La nature de la vacuité est compassion, la nature de la compassion est vacuité. Les deux sont dans une ultimité. D'accord ? Contrairement à d'autres écoles philosophiques où on estime que la vacuité c'est l'ultime et la compassion, la clarté, la félicité c'est relatif. Non, c'est une coémergence. D'accord ? Cette coémergence est ultime. Dans les Madhyamikas, on appelle ça Madhyamika Rangtung, qui prenait dans l'école, beaucoup plus dans l'école Gelugpa, par exemple. Hein. Madhyamika Rangtung, la seule valeur ultime, c'est la vacuité. D'accord ? Et les autres, c'est des aspects contextuels, relatifs, etc. Alors que dans la coémergence, les Madhyamika Shentong, le Yoga Charya, etc., on parle de coémergence. C'est un point de vue. Mais si on prône la vacuité seule, bah autant faire, oui, Shinelaktong, Mahamudra, ça ne sert à rien de faire des yogas, ça ne sert à rien de faire des tantras, parce que c'est des méthodes pour arriver à cette coémergence. Donc tout mot, eh ben, y a des situations où, en quelque sorte, un yogi va pratiquer tout mot. Et c'est pas seulement avec une blonde, ça peut être avec une pâtisserie. À un moment d'un repas. Moi, je suis plutôt tendance boulimique. Ben, boulimique, c'est... Tu veux combler, mais après, tu vois. Il n'y a pas lieu de combler. Et tu as juste l'instant de plaisir, etc. D'accord ? Alors, pendant le repas, le tout mot se traduit par ce qu'on appelle Ganachakra. Hein. C'est-à-dire faire tzok du repas. Hein. Alors, c'est pas juste une petite prière comme ça, un petit bénédicté au départ. Non, c'est constamment, tu as un plaisir, tzok. D'accord ? Et on fait le tout mot. On fait ne serait-ce qu'un petit pranayama, voilà, etc. Voilà, etc. Pour voir. Voilà. Alors, il y a plein de choses à dire sur ce. Le tzok. Et tzok, c'est un peu aujourd'hui, même, il n'y a pas qu'aujourd'hui, mais pas mal d'années. Le tzok, c'est un peu ce que me disait Lama Sherab Dorje, il disait en France, c'est tzok apéritif. Bon, c'est sympa. Hein. Mais le tzok, c'est un yoga. Tu manges des substances, donc tu t'es privé pendant 6 mois, par exemple, ne serait-ce que ça, et ces substances sont porteuses, la viande, l'alcool, c'est le béaba du tzok. C'est important de comprendre aussi la portée des substances et le transfert, le transfuge que tu mets sur ces substances. Tout ça est lié pour voir cette finalité de félicité vacuité. Même qui prône maintenant des tzoks végétariens. C'est un peu aberrant, quoi. C'est ne pas comprendre. Ils ne sont pas obligés de faire des tzoks, hein, mais faire des tzoks végétariens, c'est... Non, vous n'êtes pas obligés de faire du tzok. D'accord ? C'est comme les gens qui prônent la vacuité seule, ultime, vous n'êtes pas obligés de faire les tantras. Ah oui, mais on veut faire les tantras quand même. Et Madhyamika veut faire du tantra, mais ce n'est pas du tantra. Quoi. Ça ne sert à rien, quoi. Il y a des gens qui veulent faire du tzok végétarien. Mais ne faites pas de tzok, c'est tout. Si vous avez envie d'être végétarien, c'est louable. Ne faites pas de soc, c'est galvaudé, c'est rien comprendre, quoi. Alors ça fait bien sûr, hein. Correctement spirituel, on va dire, correctement tantrique, des tantras avec de soc végétarien. C'est de la pure démagogie, quoi. Pour se donner un confort moral, peut-être. Le tumo, c'est vraiment la base des yogas, hein, d'accord ? Parce qu'on est des êtres de désir. En tant qu'humain déjà, mais tous les êtres sont nés du désir. Enfin, mais à plus ou moins grosse dose. L'intérêt du désir qui fait une naissance humaine, qui a créé même l'humain, biologiquement parlant, hein, c'est le désir qui est d'être en lien à l'autre. D'accord ? Et ce qui a fait créer toute cette sophistication de la chair. Donc c'est la charité qui s'est fait chair chez un être humain. chez un animal, c'est du désir, hein, mais toujours d'être un peu en lien, bien sûr. Comme les fourmis, les abeilles, ils sont en lien. Mais c'est une autre recherche de compensation, etc. D'autres, voilà. Par opacité d'individuation. Je ne veux pas me penser moi. Et on va se donner un karma de sacrifice du moi, hein, au profit du collectif. Mais de façon exagérée. Et donc il y a une opacité, hein, sur le sentiment d'individuation. Chez l'être humain, l'individuation est très forte, mais on a envie de se savoir individué par l'autre. D'accord ? Et c'est ce qui crée le désir propre, hein, qui a créé l'humanité. L'humanisme, enfin l'humanité au sens de l'espèce humaine. Hein. Même, on peut englober tous les homos. Hein. Les hominidés, je ne sais pas comment on dit, hominidés. Hein. Néandertal, Erectus, tout ça. Hein, aujourd'hui, on a tous ces gènes-là. Hein. D'accord ? On n'est pas juste homo sapiens, on est un mélange de choses. On est aussi un animal, et ainsi de suite. Mais cette force-là, initiale, qu'a donné le fait que chair et charité sont co-émergents. Même si après on devient un sadique pervers, etc. D'accord ? Après, voilà. Il y a une petite impulsion, hein, de désir pour être en lien à l'autre. Après, ce lien à l'autre, c'est pour assouvir ces fantasmes sadiques, c'est autre chose. Là, c'est les souillures, hein, qui se rajoutent à ça. Le tummo, c'est vraiment la clé de tous les yogas. En tant, c'est, il faut être un être humain pour faire tummo. Comme on dit dans les tantras, hein, il faut être un être humain pour faire un tantra. D'accord ? S'il y en est du désir. On dit que les Bouddhas ont enseigné les tantras parce qu'on est né du désir. D'accord ? Et ensuite, selon les rapports à ce désir, hein, qu'est-ce que ça engendre dans nos fantasmes, etc. En fonction de ça, on a les différentes classes de tantras. On dit que Sakyamuni a créé des tantras et il n'en a pas créé, je crois pas. C'est très tardif, au XIIe siècle. Hein, d'accord ? Et donc, les tantras comme le Kriya Tantra, c'est fait pour des personnes qui ont très peu de désirs éventuellement, ou des désirs avec très peu de fantasmes, sont sobres, etc. On dit les brahmanes, hein, enfin, les gens qui ont une certaine religiosité du désir, éventuellement. Moi, je les appelle les premiers de la classe. Et bien, effectivement, ils ne vont pas faire des yogas, des tantras insurpassables d'union, etc. Ça n'aurait pas nécessaire, et ça serait contre nature, ça serait leur faire violence. Donc, un kriya tantra peut très bien suffire pour s'éveiller. D'accord ? Et là aussi, dans les tantras, il ne faut pas penser qu'il y a une hiérarchie. Hein. Les grands tantras, Kashagra, Kandemchok, Gudelagna, c'est le top des yogis, etc. Moi, je dis c'est pour les derniers de la classe. D'accord ? Mais il faut l'assumer. Moi, je sais, je l'assume, quoi, je suis un dernier de la classe, donc il nous faut des tantras, voilà, bruts, voilà, etc. Mais c'est pas parce qu'on est plus sophistiqué, plus intelligent, je crois pas. Il faut être intelligent, hein, dans la pratique de notre tantra qui nous est destiné. Tu fais du kriya tantra, il faut être très intelligent, d'accord ? Il faut une certaine densité du désir qui fait que le kriya tantra peut être suffisant pour s'éveiller. Hein, on ne dit pas que ça ne s'éveille pas, d'accord ? Mais il faut une certaine intelligence pour aborder l'approche et l'attitude qui est dans le kriya tantra. Hein, il faut s'habiller en blanc, grosso modo, il faut être propre sur soi, il faut faire des ablutions. Les ablutions, c'est... Dans nos religions bibliques, il y a des ablutions, hein, etc. Elles ont leur raison d'être. Mais il faut une certaine intelligence pour pour te dire, il ne suffit pas de te laver les mains sous le robinet que tu as fait une ablution. Hein. D'accord ? Et ainsi de suite. Donc, quel que soit le tantra, il faut une intelligence de pratique. Et donc, c'est les différentes densités de désirs qui font les différentes classes de tantra. Et là, il faut oublier aussi l'idée de hiérarchie. Il y en a des supérieurs. Hein. On fait l'éloge de Anuttara Yoga Tantra. Ça, c'est très tibétain. Hein. Enfin, je suis pas, c'est pas sympa, c'est discriminant ce que je dis, mais hein, c'est pour vendre, quoi. Hein. Puis après, on cherche des initiations de grands tantras, etc. Et on ne s'écoute pas. Qu'est-ce qui nous convient? Et souvent, c'est avec le temps. Lama Sherpa Dorje, une fois, il disait, bah, à une époque, on faisait Shenrezi, on faisait Tara, ça contentait. Et puis après, les centres vitrines, hein, avec toute la vertu que ça peut avoir, les centres vitrines cherchaient à faire venir du monde. Hein. Donc, ils cherchaient quelle initiation il fallait. Et puis, on faisait une surenchère. Et puis certains Rinpoché, ben, ils étaient instrumentalisés pour donner les initiations les plus inédites, hein, jusqu'à Kalachakra, machin. Et effectivement, les gens, ben, si on ne leur demande pas d'être intelligents, hein, s'ils écoutent la pub, c'est un grand tantra, c'est plein de bénédictions, ben, ils y vont. D'accord ? Maintenant, on est passé un peu à ça, je crois. Hein. Et un jour, Machara me disait, ben, après, ben, plus personne voulait faire Shenrezi, tout le monde voulait faire Kalachakra, Kordem Shok, etc. Et puis un jour, il me disait, ben, maintenant, je retrouve des anciens qui veulent faire Shenrezi, mais avec un choix. Ils ont compris leur nécessité. Et c'est là que ça commence à être intéressant. Et pas se laisser juste séduire, hein, par ça, c'est une grande bénédiction, etc. C'est inédit. Maintenant, on sort les fonds de tiroir, quoi, hein, un peu comme chez les éditeurs, un inédit des textes de tel auteur, hein, et inédit d'une initiation, d'une divinité, je sais pas de quelle localité du Tibet, parce qu'il y en a plein, hein, des divinités qu'on appelle les Mahakala, etc., assermentés, des démons domptés, etc. Donc on en trouve, hein. Ouais. On se présente un peu l'idée de Tummo, hein, d'accord ? C'est la réalisation, l'union de félicité, vacuité, vacuité, félicité. Cette coémergence, sahaja, félicité, vacuité. On dit c'est un yoga, une phase de résorption. Hein. Quand on dit yoga, c'est phase de résorption, un peu comme dans les tantras. Enfin, phase de résorption, excuse-moi. C'est mon habitude, mais ce n'est pas une résorption, c'est une phase de parachèvement, une apogée. Hein. D'accord ? Arriver à une apothéose. Hein, du désir, d'accord, quand on a lâché l'idée de combler un manque, qui ce manque ferait peur. Hein. Une phase d'apogée, de parachèvement, dzok, dzok rime. Il y a dzok dans dzokchen. Hein, voilà. L'apogée du désir, l'utiliser à bon escient ce désir, ben, c'est réaliser l'union sur la base du discernement, félicité, vacuité. C'est-à-dire, le discernement va savoir ce qui est jouissible, loisible, parce que vide de réalité propre. Plaisir, c'est une expérience vide de réalité propre. Mais elle se distingue bien d'un déplaisir, qui lui-même est vide de réalité propre. Et malheureusement, si on a la confusion dans le désir, eh bien, on espère que le plaisir puisse tuer le désir. C'est une démarche, même Platon en parle, Socrate ou Platon. Et c'est ça la démarche qui est liée à l'attachement. On s'attache au plaisir pour remplir le contrat de tuer, combler à tout jamais le manque. Et non, le plaisir est vide. C'est un instant transitoire, c'est fugace, etc. D'accord, hein. Mais il y a une certaine beauté, etc. Parce que justement, on est complètement dans une sorte de transcendance. On peut arriver jusqu'à une transcendance, hein, coupé toute identification, hein, dans une phase, à un moment donné, etc. Donc ça a son intérêt. Hein. Donc toujours cette idée de discernement, que cela apparaît comme étant plaisir, et ça se distingue bien d'un déplaisir, on n'est pas bête non plus, hein, d'accord ? Mais, bien qu'il se distingue, il est vide de réalité propre. Parce que le moment d'après peut être un déplaisir. Et ça, on connaît bien, hein, les hommes. Le plaisir, c'est un summum, et puis après, phase de dépression, hein, d'accord ? Ah, c'est tout à fait normal. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir capté ce moment où, avec ce plaisir, il y a une aptitude de la conscience. C'est ça ce qui est recherché, hein, dans le yoga du tummo, surtout avec, dans une union avec une parèdre. Moi, je ne suis pas très doué, hein, pour les parèdres physiques. Hein. Je fais visualiser, imagination. Hein. Pour moi, les copines, c'est juste pour faire l'amour. Hein. Je n'ai pas cette capacité, cette ambition. Hein. Mais il y a certainement des yogis qui arrivent avec des parèdres. C'est l'entraînement surtout. Voilà. Mais moi, je préfère m'entraîner avec moi-même dans la visualisation. Ça vaut ce que ça vaut. Hein. Je ne serais pas au top. Tu vois, c'est pour dire. Hein. Mais l'expérience peut être la même avec parèdres physiques ou parèdres imaginées. Donc, à telle situation, c'est pas la situation où on doit faire l'amour, obligatoirement, hein, ou alors faire l'amour avec une pâtisserie. Hein. Dans toute situation où le désir s'élève, il y a une capacité, il y a intérêt à faire, hein, à s'essayer, à ce tummo. C'est vrai que le repas, c'est ce qu'on appelle un tsok, c'est du tummo. Et autre. Ça va ? Ensuite, il y a le yoga de Gulu. Gulu, ça se traduit par corps illusoire. C'est l'illusion qu'on se fait de ce corps ordinaire. C'est pas le corps qui est illusoire. Le corps biologique, c'est, lui, c'est corps avec un petit c. Le corps ordinaire, c'est pas péjoratif, hein, ordinaire, c'est naturel, biologique en tout cas. Voilà, corps physique, biologique. On lui prête pas de qu'il soit extraordinaire ou ordinaire. Hein, il a son fonctionnement, son organisation biologique, voilà. Lui. Aigu, c'est traduit par illusion. Mais ce n'est pas ce corps qui est illusoire. C'est nos identifications à ce corps qui est une illusion. D'accord. Ce corps, ce yoga du corps illusoire, on dit que c'est pour l'utiliser dans la journée. Dans la journée, dans le sens, ça peut être la nuit, mais c'est surtout qu'on est en phase d'état de veille. C'est ça, on dit l'état de veille. Hein. Hein? Et on n'est pas dans la phase de sommeil, et on n'est pas dans la phase de rêve. Voilà. On présente ce yoga, c'est un yoga caractérisé, qui est une phase de parachèvement. D'accord ? Le parachèvement, hein, du quotidien où ce corps biologique est animé, qui rencontre un monde tangible, les autres, le monde qu'on connaît, voilà, sa maison, sa voiture, voilà, etc. Et là, on travaille donc ce yoga. Se défaire des illusions qu'on prête à notre corporalité. Ces différentes identifications peuvent faire que on estime que ce corps est beau et peut créer de l'orgueil ou de l'attachement à son image, etc. Tu vois, à peu près. Hein. Eh bien, on va utiliser cela. Quitte à faire d'identification, on va en faire. Hein. Et on va jouer, hein. On va faire de l'illusion pour chasser de l'illusion. Donc ça, ce yoga, il dit que c'est pour dissiper les voiles du désir-attachement et de la répulsion-aversion, les deux. Moi, j'aime à dire que ça enlève les voiles de l'orgueil, les images de soi, qui peuvent être à notre détriment comme à notre avantage. Se prendre pour un prince, voilà, ça peut nous arriver, etc. Mais des fois aussi, se prendre pour un moins que rien, etc. Et ces images de soi peuvent être vraiment, après, peuvent créer des affects, mais aussi des pathos, et ainsi de suite. L'anorexie, je le range là-dedans, d'accord ? Hein, c'est l'image de sa corporalité, de son corps physique, hein, peut induire des choses qui peuvent aller même jusqu'à la mort. Quoi. Hein. Donc il y a différentes techniques. Hein, on va jouer avec différentes autres illusions. Quoi. C'est aussi simple, aussi plaisant que d'être un enfant qui se prend pour un cow-boy ou un docteur. C'est vraiment... Il faut s'amuser, quoi. Et c'est vrai que l'esprit peut, après, s'aménager ses propres identifications, etc. Et là, c'est surtout, c'est nous qui les induisons. Donc on a une maîtrise, un regard, et ensuite, l'intelligence consiste à regarder fonctionner. Et ça fonctionne, alors que c'est une illusion. D'accord ? Après, bon, il y a... c'est ma présentation très générique, hein, d'accord ? Après, il y a le yoga, phase de parachèvement avec caractéristiques. Tu vois ce que veut dire caractéristique, hein, d'accord ? Ouais. Donc, le yoga du rêve, et là, c'est dans la période du rêve. Enfin, là aussi, je mets un bémol. Hein. Milam a été traduit par rêve, d'accord ? Le yoga de Milam. L'âme, c'est chemin, et mi, ce qui vient d'être advenu. Alors, on utilise la phase d'endormissement et on ne va pas utiliser le moment clé du sommeil. On va utiliser la phase d'endormissement, la phase d'hypovigilance, d'accord ? Que ce soit pendant la sieste, pendant la méditation. Parce qu'une fois qu'on a cette pratique, cette méthode, on va dire, hein, de yoga, du rêve, eh ben, si on fait sa méditation de la journée et on commence à s'endormir, eh ben, c'est l'occasion de faire le yoga du rêve. D'accord ? C'est ça l'intérêt aussi. Ah. Donc c'est pendant la phase d'endormissement, on va avoir donc un système qu'on appelle l'hypovigilance. Ça a son intérêt, l'hypovigilance, à utiliser avec précaution. L'hypovigilance a pour intérêt que nos identifications grossières, notre cogitation, nos discours cogital s'estompent, grossières. Moi, je, ce corps. Moi, ici, dans la maison. Moi, avoir faim. Hein, c'est très sténo, c'est hein, brut, voilà. Ces discours bruts hein, se dissipent, s'estompent, d'accord ? Et restent un langage subtil. Donc le langage du discours cogital, hein, qui est finalement en train de... pratiquement on se parle à soi, on commente, comme un commentateur de sport, hein, on n'arrive pas à les faire taire, enfin, c'est pareil, hein, on est un bavard en train de... s'auto-commenter qu'on vient d'être conscient d'eux, d'accord ? Ça. Eh bien, l'hypovigilance, ça l'intéresse, ça s'estompe. On dit les pensées grossières, s'estompe. Il reste que les pensées subtiles. Et pensées subtiles, ça n'a pas de l'ordre du discours, c'est de l'ordre de l'image. Donc c'est un langage, c'est le langage imaginal, tout simplement. André Breton, les surréalistes, hein, l'ont découvert aussi, hein, d'accord. C'est que il y a l'aspect discursif, hein. C'est-à-dire élaboré avec du discours, mais sémantique, d'accord, enfin, discursif. Voilà. Et c'est un langage, hein, ça le vaut, hein, on en a besoin aussi. Mais s'il s'estompe, on a un autre langage qui vient, c'est le langage imaginal, imago, chez les Grecs, qui est de l'ordre de l'intuition. Voir. On voit l'image. D'accord. C'est pas des images, c'est imago, c'est des représentations. D'accord. C'est-à-dire que la conception qu'on a de quelque chose se présente en image. C'est toujours du concept, c'est conçu. D'accord. Parce que c'est pas réel. C'est, hein. Mais une silhouette de quelqu'un vient, on le conçoit, mais vient dans le premier langage l'imaginal. C'est un mode de représentation. Le concept, avant d'être discursif, donc le concept pré-discursif, est image, imago. D'accord ? Le yoga du rêve utilise cette fonction-là de l'esprit, de la conscience. D'accord ? Et donc, il suffit d'avoir un peu d'hypovigilance, de torpeur. Et là, effectivement, là, je suis très client parce que j'ai pas mal de paresse, voilà, etc. Donc c'est très utile. Et là, c'est dans une situation, tu es en situation de paresse, hein, et bien profites-en. Une paresse, c'est quoi? C'est une économie d'énergie. Le bavard est fatigué. Il se fatigue. Et ben, ah non, il faut pas que je me fatigue. Non, ça va, profite. Va dans la zone, hein, de l'intuition, voir l'imago. Ainsi de suite. D'accord. Donc la phase d'endormissement est assez appropriée pour ça. Et dans cette phase d'endormissement, on voit des images. D'accord. Voir avec l'esprit. C'est pas avec la conscience visuelle, c'est clair. On voit bien la distinction. C'est quand même voir, mais sans voir. Hein, on disait Nagarjuna. Donc on a ça. Il faut avoir une. Enfin, moi je prétends. Hein, dire une aptitude artistique. Hein. On peut faire la même chose avec les sons. Moi, gamin, je me faisais entendre, hein. Se faire entendre. Là, c'est se faire voir. C'est pas l'expression, on va te faire voir. On peut créer toutes sortes d'expériences sensorielles. Hein. Mais avec le yoga du rêve, c'est plus de l'ordre de le chemin de ce qui est advenu. Ce qui advient, c'est l'image. On en prend le chemin. C'est-à-dire, on glisse. On commence pas à commenter. Tu commentes, tu sors de ton hypovigilance. D'accord? Et c'est là où je dis, attention, le yoga du rêve, ce n'est pas pendant le rêve, comme on l'entend nous, après le sommeil. D'accord? C'est le yoga de l'imaginal. D'accord. Et ce yoga, si par exemple c'est le soir, on est dans son lit, la phase d'endormissement, si on capte, on prend le chemin de l'image qui vient d'advenir, d'accord, il n'y a pas de sommeil. On zappe le sommeil, on passe en mode imaginal. C'est pour ça que je prétends, attention, si on s'endort et que vient un rêve, à mes yeux, hein, toute modestie, c'est pas possible de faire yoga du rêve, d'intervenir de rechef avec sa propre décision, etc. Même si certains, des fois on peut l'entendre comme ça dans les enseignements de grands maîtres, hein, il dit oui, yoga du rêve, vous allez voir, vous allez vous souvenir de vos rêves. Aucun intérêt, quoi. Hein. Mocha Krimpoche, il dit un rêve, c'est un rêve. Et je pense que lui, c'est un yogi du rêve aussi, Mocha Krimpoche. Un rêve, c'est un rêve, ça n'a aucun intérêt. D'accord. Et certains, même, tu peux entendre des commentateurs aujourd'hui dire oui, il a saisi le rêve, comme on dit, hein, c'est des expressions du yoga. Il a saisi le rêve, il a su que pendant le rêve, il rêvait. Et c'est du rêve. C'est le rêveur qui a cette pensée de. Etc. D'accord. Une fois, j'ai entendu aussi quelqu'un qui disait, un enseignant qui disait sur YouTube, qu'une de ses élèves avait réalisé le yoga du rêve parce que pendant le rêve, alors elle dit après, une fois s'être réveillée, mais pendant le rêve, alors je rêvais d'être poursuivi par des voleurs, et pendant le rêve, hein, la pensée me dit, mais ce n'est qu'un rêve. Donc tu peux voler pour échapper à tes voleurs. D'accord? Et c'est interprété comme étant, ça y est, elle a réalisé le yoga du rêve. Non, elle rêvait. Parce qu'elle continuait à imputer qu'il y avait des voleurs qui la poursuivaient. Donc c'est juste un mécanisme onirique de survie, hein, en volant. C'est tout. Mais c'est pas le yoga du rêve. Tu vois la différence? Hein? Donc il faut faire attention au yoga du rêve. Hein? Le yoga du rêve, c'est le yoga de l'imaginal. Voilà. Et tu rentres de rechef dans l'imaginal, d'accord? Et ça donne toutes les expériences qu'on dit visionnaires dans notre langage occidental. Hein? C'est la pure hallucination, par contre, hein, bien sûr. Mais t'as pas, tu comprends l'illusion de prêter un tel comme étant un voleur qui te pourchasse. Ça, c'est la saisie. D'accord? Et dans le rêve, tu saisis cela et tu te penses, oh, j'ai le pouvoir de m'envoler. C'est pas le yoga du rêve. Parce que tu continues d'imputer qu'il y a des voleurs qui te pourchassent. C'est-à-dire que tu justifies une peur, hein, etc. Ce scénario simule, hein, mais en image, un karma, hein, la peur d'être poursuivi, etc., la peur de la culpabilité d'être pris par je sais pas quoi, etc. Il y a plein de choses à dire sur un rêve, d'accord, mais ça ne nous intéresse pas. C'est le yoga du rêve, ce serait de dire, tiens, j'ai généré des voleurs, mais ils sont vides de la réalité d'être c'est pas voleurs, c'est bandits, des agresseurs, vides de, etc. Et là, tu désamorces, d'accord, la culpabilité, des choses comme ça, voilà. Là, c'est beaucoup plus intéressant. Et ça se fait avant la phase de sommeil. C'est-à-dire, tu passes pas par le coma du sommeil. Ça, c'est une affirmation que j'ai. Après, c'est une affirmation que j'ai parce que moi, après le sommeil, c'est vrai que j'ai jamais eu d'expérience. Si, savoir que c'est un rêve, machin, etc. Mais tu continues, t'as pas une maîtrise des illusions, tu te désillusionnes pas. Tu vois? Tu trouves une méthode de t'envoler parce que t'es pourchassé par. Voilà. Donc, il faut bien voir dans ce yoga du rêve, c'est pas les phénomènes comme ça qui sont intéressants, c'est replacer la finalité de ce yoga du rêve, c'est voir la saisie, la soif et l'ignorance qui sont en train de jouer de nous. D'accord? Et donc, milam, c'est pas le mot rêve qu'il faut traduire. Le chemin, hein, de ce qui advient là. D'accord? Mi. Et mi, c'est associé à l'image. Ce qui advient là. Et on l'a tous fait de façon. Quand on s'interroge, ça, tout le monde l'a fait au boulot, une petite sieste, il y a des images qui viennent. Hein, voilà. Après, c'est une force de caractère qu'il faut, hein, de glisser, hein, dans cette image. Et là, après, on reconnaît les mécanismes de l'image. Après, on peut s'amuser. Il y a plein de choses, après, des petits exercices à faire. Hein, mais ne serait-ce que glisser. C'est prendre le train en marche. C'est ça, mi-lam. Voilà. En marche, en chemin, voilà. ces trois yogas, eh ben, ils s'entraînent durant cette vie-là, on s'entraîne durant cette vie-là, c'est clair, mais ils s'exécutent aussi. D'accord ? On ne va pas attendre de mourir pour exécuter le yoga du rêve. On attend d'avoir une paresse d'esprit, une léthargie, une hypovigilance pour l'exécuter. Donc l'entraînement et l'exécution se fait dans cette vie. Dans un contexte donné, bien sûr. Voilà. Et ça, il faut savoir quel contexte. Mais on peut faire le yoga du rêve avec une belle blonde qui nous fait naître du désir. Peut-être, il faut voir. Hein. D'accord ? Parce que c'est encore une image, et ainsi de suite. Mais ce serait bête d'être en hypovigilance alors que t'as une blonde devant toi. ce serait méprisant aussi. Hein, pour la personne qui est en fait. Attends, je vais faire le yoga du rêve. Ensuite, il y a les trois autres yogas qui ont trait à la mort. Et là, effectivement, on s'entraîne de son vivant, mais on va devoir les exécuter, les mettre à exécution dans les processus de la mort. Donc les trois yogas qui ont trait à la mort, c'est le yoga de Poa, hein, délocalisation, déménagement, hein, on dit transfert. Alors on dit transfert de conscience, voilà. Ensuite, le yoga de clair-lumière, qui est le yoga au moment même de la rupture entre un corps physique et une nature psychique. D'accord ? Il y a un phénomène où on peut être en la lucidité toute naturelle, primordiale. On l'appelle des fois clair-lumière. Clair-lumière, c'est un des plus ultimes, c'est le plus ultime des six yogas. Et il est souvent associé au Mahamudra lui-même. Mais il est fait avec caractéristique parce qu'il faut être, il est caractérisé par les mécanismes propres à ce moment-là de rupture. Corps biologique avec notre conscience, notre esprit. Et le troisième yoga qui a trait à la mort, c'est, on l'appelle le yoga du bardo, plus précisément, il faut dire, le yoga du bardo du devenir, c'est-à-dire post-mortem. Ce yoga du bardo du devenir est semblable au yoga du rêve. C'est-à-dire les images qui vont se produire post-mortem, d'accord, toutes sortes d'images, il faut les reconnaître comme étant l'union d'apparence vide. Donc en faisant le yoga du rêve, ça peut être largement suffisant, des fois, pour se dire, ben, quand je serai dans le bardo du devenir, ah, je ferai le yoga du rêve. On peut faire. Maintenant, se savoir qu'on est dans le bardo du devenir, c'est ça toute la difficulté, quoi. Ne serait-ce que le savoir, c'est énorme. Hein? Mais avec l'habitude de être témoin d'une émergence d'image, être témoin aussi, l'image va être interprétée par un discours grossier. Hein? Grossier, mais ça ne veut pas dire. C'est méchant, enfin voilà, c'est utile. Hein, d'accord ? La conscientisation, la verbalisation de l'image, des sentiments, etc., tout ce qui est intuitif, il y a besoin de mettre en mots. Hein. On connaît les vertus de mettre en mots un sentiment. Après l'exactitude, bien sûr, il n'y aura peut-être pas d'exactitude, mais il va véhiculer quand même d'autres sentiments chez l'autre, et ainsi de suite. Donc ces trois yogas qui ont trait à la mort. Donc il y a le bardo ante mortem, hein, tout le processus où c'est clair qu'il y a un processus de résorption des cinq éléments, des quatre éléments, des cinq éléments, des cinq agrégats. Qui vont être les signes avant-coureurs. de la mort. Mais tant qu'il n'est pas mort, ce n'est pas obligatoirement des signes avant-coureurs. On peut, par des processus, dans ces processus de rédemption, ne pas finir par une mort. Et la mort, c'est le terme qui désigne le moment d'une rupture entre un corps biologique et la conscience. D'accord ? Après, la mort pour un être des enfers, hein, il n'y a pas de corps biologique. Mais c'est la rupture entre ce qui a créé sa sphère d'expérience, hein, qui a justifié sa sphère d'expérience, par exemple la parano, hein, dans le monde des enfers, c'est une parano. Hein, mais il n'y a pas de corps biologique. Il n'y a pas de contemporain biologique avec lui. Hein, et c'est une sphère en huis clos. Hein, c'est une sphère paranoïaque en huis clos. Mais la rupture, ce qui a amené cette parano, et rupture, il meurt. Hein, c'est une belle mort parce qu'il échappe à sa parano. Pour X raisons. Hein, c'est très aléatoire, c'est très difficile. Donc, il y a différentes morts. Un être du monde des dieux, hein, quand il va quitter sa sphère pseudo-paradisiaque, hein, etc., on va appeler sa mort. D'accord ? Il va changer de domaine d'expérience. Avec le corps physique, c'est intéressant, parce que la phase ante-mortem s'accompagne de signes physiques, hein, et de signes psychiques. En plus, en tant qu'être humain, ben, on se savait mortel, donc l'approche met en jeu l'intelligence, plus d'intelligence, met en jeu notre authenticité, etc. Moralité, c'était notre éthique et ainsi de suite. Donc ça peut être plein de vertus, ce moment-là. Le yoga de Poa, on s'entraîne durant cette vie, mais on va l'exécuter à un moment précis, hein, d'un moment où on va être sur la fin du bardo ante-mortem. Et c'est selon le type de poa qu'on a. Il y a le poa du nirmanakaya, le poa du sambhogakaya et le poa du dharmakaya. Les poas du dharmakaya, c'est proche du yoga de clair-lumière. C'est la rhétorique qui change, enfin voilà. Mais c'est du Mahamudra, c'est voilà, etc. Mais on utilise quand même tout un scénario, un décorum, hein, propre à des divinités, ainsi de suite. On va commencer par le yoga de Nirmanakaya, d'accord. Ça peut être largement suffisant, c'est pas du discount, d'accord. Si c'est pas suffisant, c'est qu'on est un mauvais pratiquant. Vous voyez, il faut inverser les choses. Hein, sinon, ouais, il m'a donné que ça, je mérite mieux, je veux plus. Non, si c'est avec ça, c'est bien, contente-toi, t'as un bon karma. D'accord, c'est ça que ça veut dire. Hein. Et te connaissant, t'as pas besoin de grand-chose. Hein. D'accord. Un petit truc, quoi, voilà. Donc, le bardo ante-mortem, hein, qui précède la mort, voilà, moment clé, crucial. Il y a un moment, il faut bien choisir ce moment clé pour exécuter le poids. C'est le moment justement où il y a rupture, bien sûr. Hein, mais pendant toute l'approche du processus de résorption, là on peut parler de résorption, hein, des éléments, des agrégats, toutes nos identifications vont s'estomper. D'accord ? Et c'est ça qui peut créer des peurs. Si on a vécu, hein, par identification interposée, on dit. Hein? On en a, hein? D'accord. Et ben, il faut apprendre déjà par des petites morts dans notre vie. On s'est pris toute sa vie pour le directeur d'une banque, pour un lama, un grand lama, on a plein d'identifications. Ou pour un simple, nul, on a plein de modes d'identification. Et la mort fait que ces identifications se résorbent. C'est que fumer, fumer, quoi. Et on prend peur parce que si on vit à travers nos identifications, c'est ça qui fait les affres de la mort. Parce qu'on ne sait pas vivre autrement, se penser autrement. Donc déjà, de son vivant, on fait pas mal de petites morts, hein, etc. Puis il en reste toujours, hein, qui se nichent comme ça, il y a des niches, hein, d'identification. Et si on est déjà préparé, hein, et que c'est de l'illusion, c'est déjà énorme. D'accord. Donc il y a différentes façons d'approche. Hein. Avec le poids de Amitabha, bah, on s'identifie à Shenrezig. Donc on utilise de l'identification pour déjouer l'identification. Mais en sachant que c'est une illusion. Toujours. Hein, c'est une représentation de soi. Surtout par l'aspect. Blanc, quatre bras, etc. Alors deux bras, c'est bien aussi. Hein. C'est mieux même, je crois. Mais c'est que d'identification. Ça n'a pas de réalité propre. Donc c'est différentes approches, et ça on va le faire pendant l'approche antémortelle. D'accord. C'est le dernier entraînement, quoi, de cette vie. Et à un moment, il va falloir s'exécuter. C'est au moment où toutes nos identifications nous ont lâchés. D'accord. C'est un transfuge, un transfert d'identification. Elle nous lâche, on en prend une qui a des valeurs, des qualités d'esprit. Shenrezig, c'est la compassion de l'esprit, hein, c'est pas quelqu'un en particulier. Comme un enfant, quand il se prend pour un cow-boy, qu'est-ce qu'il entend? Le héros, qui est fort, voilà, etc. Ou un chevalier, etc. Ou un pompier, voilà. C'est la valeur. Hein, il va s'identifier à des valeurs. Donc nous, on va s'identifier à des valeurs. D'accord. Mais on va être focalisé, ce qui fait que les autres identifications dites du samsara, enfin, qui n'ont pas de valeur, enfin, qui sont que des fantasmes, hein, ça, vont se résorber, mais on va rien voir. On va être focalisé. Une force de concentration. Et au moment où toutes ces identifications sont voilées, sont parties, résorbées, se dissolvent, il y a une force, notre identification qu'on a choisie, et qu'on sait pertinemment que c'est une identification, d'accord, imaginale, hein, psychique. Et elle choisit, elle va donner plus de clarté, dans le sens plus de pertinence, d'accord, ça va, hein, plus de force, et surtout avoir après l'intelligence que c'est notre qualité inhérente qui s'exprime. Non plus Monsieur Shenrezig ou quoi que ce soit. Après, il faut lâcher aussi. Ça. C'est notre qualité inhérente qu'on aura captée. D'accord. Cette qualité inhérente, c'est ce qu'on appelle un Nadi Bouddha. Le summum, c'est plus un saint, on va pas se vouer à des saints, à des anges, on va se vouer à Dieu même. Alors dans le yoga de Poa d'Amitabha, hein, Le sublime, le top du top de Shenrezig, c'est Amitabha. Shenrezig est le fils, Amitabha c'est le père. Tu vois ce que je veux dire? Nous on va voir le PDG, quoi. Mais quand, par identification, hein, tu captes la compassion inhérente de ton esprit, de ton être même, d'accord, ça devient être Amitabha. C'est ça le transfert. On est Shenrezig, on se transfère en Amitabha. C'est l'expérience du Christ. Hein. Le Christ, il se fait un transfert. D'abord l'absence. Pourquoi m'as-tu abandonné, ben, hein, d'accord. Un grand vacuum. D'accord. Il a certainement surmonté. Hein, d'accord. Parce que C'est un Romain qui l'entend dire ça. Hein? Mais il ne voit pas ce qu'il est en train de faire. Ben, il met en exécution ses enseignements, certainement, j'imagine. Hein? C'est-à-dire, et il l'a dit lui-même, hein, je suis le père, je suis... D'accord ? C'est-à-dire, il est Dharma Kaya, Sambhogya Kaya, Nirmana Kaya. D'accord ? Il est une trinité, une unité de trois instances. D'accord ? Ben, dans le transfert, c'est pareil. D'accord ? On va aller à la maturité, hein, peut-être Shenrezig, mais aussi Amitabha, et ainsi de suite. Mais par la voie de la compassion, on a la compassion. D'accord ? Hop, j'obtiens une maturité, je ne suis plus le fils à papa. C'est-à-dire, je peux moi-même être le père maintenant. D'accord ? Et quand. C'est une interprétation, parce que j'aime beaucoup le Christ, j'aime bien cette voix christique. Mais c'est une interprétation. Mais à la suite de cet abandon, qu'est-ce qui me fait penser qu'il a réalisé ce transfert? D'accord? C'est pas un transfert, c'est pas s'envoyer en l'air, hein, déménager. Hein. On ne sort pas une conscience de quelque chose. Hein, d'accord? C'est délocaliser nos identifications pour réellement identifier la nature primordiale. Et qu'est-ce qui fait qu'il a abouti à ce transfert, alors que c'est parti d'un abandon, sentiment d'abandon, c'est le petit bébé qui pleure son père, quoi. Ben, il reprend du poil de la bête. Certainement qu'il a fait. Et l'affirmation après coup, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il prend la maturité d'un père. C'est-à-dire, la compassion est devenue compréhension. C'est Amitabha, cette compréhension lucide du discernement. Amitabha, hein, c'est pas quelqu'un pour nous, hein. C'est la sagesse du discernement. C'est-à-dire, il est en plein discernement, il fait le discernement que ceux qui sont en train de le lâcher, d'accord, ils ne savent pas ce qu'ils font. D'accord ? C'est beau. Ça veut dire qu'il comprend que finalement il y comprend très bien. Bah oui, il y a eu malentendu sur le programme. Ils attendaient le roi d'Israël pour chasser les Romains, éventuellement. Ils se sont sentis bluffés. Donc ils sont tout à fait légitimés. Bah oui, peut-être moi-même, me sentant trahi, j'amène à être agressif. D'accord ? Tu vois la compréhension du discernement. Il discerne bien. Moi, si je reste dans mon regard de victime, je vais pleurnicher toute ma vie. Ils ont fait ça au fils à papa. Oh, c'est grave, ils vont être punis. D'accord ? Mais s'il dépasse et passe à la maturité d'un père, d'accord ? Pourquoi pas une mère, hein, c'est pas sexiste, mais voilà. Hein. Le regard d'un père, il ne se met pas dans sa situation de victime, il se met à la place de l'autre. Ils sont légitimes, je les comprends. C'est ça. Ils ne savent pas ce qu'ils font, par contre. C'est parce qu'ils ne vont jamais combler leur sentiment d'être frustrés. Par contre, c'est ça, juste. Et donc, peut-être c'est très légitime d'être agressif, de lâcher quelqu'un, de crucifier ma personne. N'empêche que ça ne vous comblera jamais. D'accord ? Et c'est ça, pardonne-leur, c'est-à-dire... Comble-les malgré qu'ils n'arriveront pas à se combler. Et moi, c'est ce que j'entends. Hein? Et ça veut dire qu'il a, ça y est, assumé la force du père. Il a fait son transfert de fils à papa, à papa et fils. Et éventuellement, Saint-Esprit, si on veut. Nous, on dit Trikaya, c'est une trinité. La coémergence, on est une unité. Alors, moi, c'est comme ça que je traduis cet aspect-là. Donc le transfert Shenrezig Amitabha, hein, cette explication-là, et pas espérer rejoindre quelqu'un comme étant Amitabha. On recouvre sa nature. D'accord. Alors peut-être que j'ai tort ou que les bouddhistes ont tort. Après, on verra bien. Peut-être que d'autres personnes... Si, si, Amitabha, il existe. Je vais retrouver Amitabha. Il y a des personnes qui parlent comme étant des personnes, hein, etc.
Je pense en toi.
Oui. C'est dans l'enseignement bouddhique, en tout cas. Hein. Après, il y a toujours des personnes qui ont un certain profil théiste. Même si c'est les enseignements du Bouddha, ils en font un théiste. Hein. D'accord ? Ils s'adressent à un Bouddha, ils font des prières à un Bouddha, etc. D'accord ? Ils parlent même à des statues. Ça, j'ai vu ça dans un film. Alors, ça fait joli, c'est des dévotions, etc. Ils mettent des feuilles d'or aux statues, puis ils parlent. On a ça aussi avec nos croyants du locaux. Hein. C'est des profils psychologiques, voilà, c'est... Ça peut aider, mais ça peut planter aussi. On peut être très très déçu, désorienté au moment de la mort. Après, c'est à chacun son tour. Mais si on veut être strictement bouddhiste, hein, c'est à s'appuyer sur les enseignements du Bouddha, hein, il n'y a pas de réalité propre de quelque chose comme étant un Bouddha. Et que c'est avant tout le fait d'être dans la réalisation de notre nature primordiale, la reconnaissance de notre esprit dans sa nature ultime. Alors bien sûr, il y a des personnes qui sont Bouddha, mais pas en tant que des instances supérieures. Donc le yoga de poids, c'est... le yoga de clair lumière, c'est le moment précis de la séparation. Le poids, on dit qu'on le fait au moment précis aussi de la séparation, mais il y a au moment précis où le chemin est pris, si je veux faire une nuance. D'accord ? Et ce chemin, c'est le... C'est-à-dire donner tout son sens à son désir sous forme d'aspiration. C'est-à-dire se sentir aspiré par le haut. Donc on travaille les yogas aussi, on travaille le pranayama, hein, le bumshen, comme pour tout mot. On travaille le désir, c'est clair. L'aspiration, c'est une ligne de désir à aspirer. C'est là. Et on travaille avec... On s'entraîne avec des mouvements de souffle. On peut le faire sans pranayama, aussi sans bumshen, hein, selon. Si on a suffisamment une force d'aspiration, et cette aspiration va connoter un élan psychique, hein, et se greffer à cet élan psychique. Voilà, hein. Et cette aspiration va nous délocaliser. D'accord ? Claire lumière, c'est le moment clé de la séparation du corps et de l'esprit. Claire lumière, la lumière, c'est bien sûr la lucidité, l'autoconnaissance, on dit, c'est des traductions, hein, rik, dire la connaissance qui est à même sa propre fonction, de connaître. Dans sa propre fonctionnalité ou omnifonctionnalité. Kundro, qui marche tout le temps. D'accord ? Même s'il y a la séparation d'un corps, il y aura toujours Rang Rik. Donc c'est pas autoconnaissance. C'est-à-dire la connaissance à même son fonctionnement. D'accord ? Ce fonctionnement, la connaissance en tant que telle nous est inconnue. peut pas connaître la connaissance. Ce serait une fiction, ce serait que la connaissance serait l'objet d'elle-même. Ça, c'est pas, c'est impossible.
Impossible.
Hein? On peut, il s'avère qu'il y a une connaissance parce qu'on a des fonctionnements, signes, qu'on fait, qu'on connaît. Les sensations, ce qu'on appelle les cinq agrégats. Hein? Il y a une forme manifeste, un son, c'est manifeste, donc je connais. D'accord? Il y a une sensation, agréée, désagréée. Hein? Ensuite, je le pense, je verbalise, j'intellectualise, j'en juge quelque chose, et ainsi de suite. Ça crée des humeurs d'âme, tristesse, joie, etc. Différentes affects éventuellement. Alors, donc, on est témoin d'un fonctionnement, mais on ne verra jamais la connaissance en tant que telle. Et lumière, ça veut dire ça. C'est-à-dire que la connaissance nous est invisible, elle sera invisible. La lumière est invisible. On utilise le mot lumière pour dire c'est invisible. C'est paradoxal. Là, on dit il y a de la lumière, de fait, parce qu'on voit les choses. C'est-à-dire, on voit la fonction de lumière être en œuvre du fait qu'on voit. Mais on éteint, la lumière est toujours là. Parce qu'on voit l'obscurité. Tu vois ce que je veux dire, hein? Donc, il faut voir ce mot lumière, hein? Pas au sens de lumière électrique, d'accord? Mais l'autocognition, hein? L'autoconnaissance. Le fonctionnement même est omnifonctionnel. C'est un terme des samskaras, hein? Kundro, ça fonctionne tout le temps. Et même ici, dans le monde, dans l'univers, la lumière fonctionne tout le temps. Si c'est, même si c'est pour nous montrer que c'est sombre. Mais il n'y a pas de sombre absolu, il n'y a pas de noir absolu non plus. Ainsi de suite. Voilà. Tu vois le mot lumière ? La lumière, c'est un mot pour dire ce qui nous est invisible. Mais qu'on en connaît le fonctionnement, enfin l'exécution, l'œuvre, hein, pas l'existence, mais il y a, d'accord, par les effets. Et clarté, c'est pas un potentiomètre qui rend plus ou moins clair cette lumière. Clarté, c'est un terme en français, ça, ce que ça. Moi, j'aime bien dire numène, numineux, numineux. Hein, c'est un terme français qu'on a, qui fait preuve, avéré, oui, vérité éventuellement. Ce mot-là, il n'est plus à la mode. Hein. Oui, il n'y a pas de vérité, il y a plusieurs vérités. Voilà. Mais dans le sens, c'est vérifiable. Tu vois ce que je veux dire ? Clarté, c'est le phénomène qui rend visible, enfin qui rend concevable, invisible. C'est de l'ordre de la révélation. D'accord ? Et non pas comme un potentiomètre, tiens, tu veux mettre plus de lumière. Non. C'est le phénomène d'auto-révélation. Clarté, c'est le rang de Rick. D'auto. D'accord ? Donc c'est ce concept de claire lumière, il faut l'utiliser avec prudence. Et la claire lumière du yoga de claire lumière, c'est Mahamudra. C'est pas rendre visible l'invisible, c'est savoir de quoi est fait l'invisible. Vous voyez ? En quoi consiste l'invisible plutôt ? Voilà ? Clarté. Clarté, c'est l'Eureka. D'accord ? On voit bien. Hein ? À un moment, on ne comprend pas. Hein, d'accord ? On ne comprend pas, on est au. Oh, j'ai compris. C'est clarté. D'accord ? C'est un mécanisme de saisie immédiat. On est dans l'immédiat. D'accord ? T'as un malentendu, clarté. On dit dissiper le malentendu. Clarté a rendu. D'accord ? T'as fait comprendre en quoi ce malentendu ne pouvait pas être connu. Puisque c'est un malentendu. Tu vois ? Et finalement, tu dissipes le malentendu. C'est ce fonctionnement-là qu'on... Hein, c'est le but de la méditation, c'est arriver à ces eureka, quoi. Hein, non pas rendre visible ce qui est invisible, savoir de quoi est fait cet invisible, et derrière le mot invisible, c'est tous les uns. Indicible, inouï, hein, inconcevable, impossible éventuellement, tu vois, c'est tous ces un, l'infini. Tu fais expérience de l'infini, ce qu'on appelle yin, hein, yin, hein, c'est l'expérience en quoi est fait l'infini. D'accord ? Mais c'est pas dire l'infini s'est fait fini pour toi. Non, il reste infini. Mais tu sais en quoi il est infini, et c'est le moment où justement tu es un apogée de perfection, si j'ose dire, mais c'est... les choses sont justes. L'invisible ne peut pas se rendre visible. Cette justesse, d'accord ? Claire lumière, c'est une expérience d'évidence. Je sais, hein, la justesse de l'indicible, je ne vais pas le trahir. C'est la justesse du mystère. Je ne vais pas donner de nom à Dieu. C'est le mystère. Dans la loi judaïque, on donne des lettres, il faut qu'elles restent dans le désordre. On donne des... C'est simplement pour dire cette capacité de respect du mystère, quoi. De l'indicible, de l'innommable, l'inquantifiable, l'incommensurable. Tu vois, tous ces uns. Ces uns ne sont pas le fait d'une impuissance. C'est la puissance de pouvoir assumer ça. L'insondable, le manque. On parlait du désir. Cet aspect insondable quand on a un manque. D'accord ? Mais ce insondable, c'est une vertu. Il ne faut pas le bafouer en voulant combler un manque. Prends plaisir, point barre. N'utilise pas le plaisir pour combler un manque. C'est mesquin. C'est... Et puis ça sera au détriment de son objet, de l'objet, enfin de l'autre, hein, ou de soi-même. Hein, dans les plaisirs. Soi-même, hein, sur soi-même, je ne sais pas. Quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Claire lumière, c'est ça. D'accord ? C'est rester à l'évidence et rentrer dans une non-remémorisation. Ma draine, draine-mais, disait Sarah. Tu ne draines pas le rappel, hein, de Samatha. Il faut que je me rappelle l'objet, machin, machin. À un moment, fais plus rappel. Reste à l'évidence. Draine mais. Un draine pas, c'est rappel. Remettre en mémoire l'objet à la conscience parce que tu as été distrait. Bon, c'est bien un départ. Et à un moment, fais plus appel au rappel. Reste en l'évidence. Et même, tu peux incorporer la distraction comme étant Mahamudra distraction. C'est une distraction vide de quelqu'un qui est distrait de quelque chose. Mahamudra utilise tout. Tu te vois. Déclarer je suis distrait, Mahamudra, tu vois, il n'arrête pas, il dit il n'y a pas un moment, il n'y a pas l'occasion de faire Mahamudra. Alors, certaines personnes essayent d'être dans une situation bien donnée, un bon samatha pour faire Mahamudra. N'attends pas. Ça peut prendre du temps si tu commences à vouloir maîtriser totalement samatha pour faire Mahamudra. Mahamudra, c'est une vue que tu appliques tout le temps. Agité, vacuité. Ça qui me pose du tri, m'a beaucoup aidé aussi. Une fois, on lui posait la question, en retraite de 3 ans, quelqu'un très honnête, dit « je me sens mal parce que j'ai de la colère pour quelqu'un, tu vois, on est en vase-clos, hein. C'est tout à fait légitime, hein. C'est pas le problème. Hein, j'ai la colère, machin, et puis je me sens mal, on pratique Shenrezi, je dois supposer que l'autre est Shenrezi, etc., etc. Qu'est-ce que je fais de cette colère ?» D'accord ? Et Kempo Sultrim, il dit, coémergence, colère, vacuité. De quelque chose comme étant une colère, de quelqu'un comme étant une colère, tu vas jouer, tu vas faire un procès constant. Soit tu donnes à la faute de l'autre de déclencher cette colère, ou toi-même, etc., tu t'en sors pas. Ça, c'est, tu vois, c'est le syndrome du pénitent, culpabilisateur, ouais, ça. Et Kempo Sultrim, dans sa vue pure, certainement qu'il l'a réalisé aussi. C'est du pur, c'est le discernement. Colère, vacuité. Vide de soi à cette colère. Et cette colère est une intelligence, comme pour le désir. C'est une intelligence. Mais l'intelligence qui fait que le virus fait que on veut assouvir cette colère en punissant quelqu'un. Oui. Et en innocentant l'autre. Soit c'est l'autre, hein, ou soit c'est moi qui m'avais mis innocenté et justifié que je vais le tuer. Ce que a compris Jésus-Christ sur la croix. Pardonne-leur, c'est pas qu'ils font. D'accord ? Ils sont en colère et ils pensent que leur agression va les satisfaire, va compenser la frustration. Ça ne marche pas. Colère vacuité. Il n'y a pas un moment où on ne peut pas faire Mahamudra. Claire lumière, c'est Mahamudra. Hein, si. D'accord. Ça va avec lumière, clarté. J'insiste beaucoup. Hein, pour envisager cette expérience, si on l'envisage bien, on s'aperçoit que des fois on rate le coche, qu'on est en train de faire le rappel, c'est-à-dire l'auto-vérification. Ah mais je médite bien, c'est foutu. L'excès d'antidote aussi, tu comprends, et ainsi de suite. Donc à un moment, il faut passer de draine pas le rappel à draine mais sans rappel, sans revérification, réélaboration, je suis celui qui est en train de m'éveiller. Voilà. Et c'est ça l'idée de clair lumière. Il y a un respect du mystère de son être, de son immuabilité. Hein, ça fait partie des différents un, immuabilité, hein, mais pas une entité monolithique. Une immuabilité de continuum fluctuant. Et on reste à l'évidence. Indicible, inconcluable, moi j'aime bien dire. On ne peut pas conclure. Ah, l'éveil, c'est ça, ça. Voilà. Ça, c'est le yoga de clair-lumière. Alors, on peut le faire de son vivant aussi. Hein. Ça, c'est Mahamudra. On s'entraîne avec le sommeil, mais on peut l'exécuter aussi, au sommeil. Donc, le yoga de clair-lumière est toute la vie psychique. Mais bien comprendre ce yoga clair-lumière, parce que si on s'arrête au mot lumière, on peut se contenter de certains phénomènes de lumière. De lumière au sens là, au sens classique du mot. Hein. Se contenter, alors c'est des phénomènes, des mécanismes, hein, de lumière, ça peut être des petites étincelles, des petits flashs, ça peut être de la lumière qui vient à l'esprit, c'est vu, hein, et c'est impressionnant, hein, etc. Tu peux voir comme en pleine nuit, mais tu vois, enfin, comme en plein jour la nuit, d'accord. Donc c'est vraiment des phénomènes, ça peut être spectaculaire, et c'est là qu'il faut revenir au sens ultime du Mahamudra ou de la clair-lumière. D'accord. C'est des signes avant-coureurs. D'accord. Ce que j'appelle des numènes. D'accord. Des clarifications, clarté, numènes. Hein, des avérés. D'accord. Il s'avère que. Et ça se présente sous forme d'un éclair. Ben, on était dans une approche. Alors, je ne vais pas tout expliquer, hein, etc. Mais c'est souvent des approches où la réaction de lumière, c'est des phénomènes qui traduisent un moment d'approche, mais pas suffisamment dans des bonnes conditions, pas suffisamment près, qui crée un réflexe à respecter, qu'on appelle la peur. D'accord. Et alors, souvent, on dit, ah, j'ai eu un éclair, j'ai eu peur. Non, t'as eu peur, qui a fait un éclair? D'accord. Ça. Voilà. Et après, t'as deux différents phénomènes, mais tous ces phénomènes, c'est des mécanismes physico-psychiques. C'est clair. Même à l'approche d'un mort, t'es baigné de lumière blanche, c'est un phénomène chimique qui vient à l'esprit, t'en fais expérience, donc bien sûr, c'est un phénomène mental de sentiment de lumière, baigné de lumière. C'est un mécanisme physique, physico-psychique. D'accord. Ce n'est pas la clair-lumière de la nature du Mahamudra, de la bouddhéité, de la nature ultime de l'esprit. Mais c'est un signe avant-coureur. C'est-à-dire, pour en arriver jusqu'à là, hein, c'est qu'on a bien décapé plein de choses, les petites morts d'identification, etc. Mais il y a encore quelque chose qu'on ne veut pas lâcher. D'accord. Et surtout, on ne veut pas lâcher ça parce que après, on va l'interpréter. Hein, on peut même entendre des voix hein, pour dire, ouais, etc., etc. Mais c'est des mécanismes physico-psychiques. On n'est pas mort. D'accord. Après, on peut en revenir de cela. Les autres personnes disent c'est des approches à mort. Oui, si on veut. Mais tu peux le faire aussi pendant le sommeil. Hein. C'est l'approche du sommeil hein, qui crée ces mécanismes hein, physico-psychiques. J'insiste beaucoup là-dessus. L'éveil en tant que l'éveil, reconnaître sa propre nature, hein, ne relève pas de ces expériences de phénomènes. Mais ces phénomènes sont des signes avant-coureurs. Mais on peut aussi obtenir le Mahamudra sans avoir été témoin de ces signes avant-coureurs. D'accord ? Et je répète souvent, j'ai dû te le dire souvent, quand on a posé la question à Bhikkhu Rinpoché, est-ce que vous avez eu des expériences ? Il a dit non. D'accord. Et il dit, c'est vrai que les pratiquants occidentaux, je ne sais plus s'il disait occidentaux ou français, enfin, occidentaux, je ne vois pas pourquoi il fait une nuance, mais bon, c'est comme ça. Peut-être que... Ouais, faut voir. Lama Gendun aussi disait que les Français méditaient bien, ils avaient beaucoup d'expérience. Mais une réalisation, c'est autre chose. Et il disait, non, j'avais aucune expérience. Alors au début, c'est étonnant parce qu'on confond expérience et réalisation, justement. Les expériences, c'est des bornes avant-coureurs significatives qui peuvent nous guider, nous aider. Tu as même des mauvaises expériences qui peuvent nous guider, hein, ainsi de suite. Et une réalisation, c'est autre chose. Et Bhikkhu Rinpoché, non, j'ai pas beaucoup d'expérience, ou pas du tout. Mais il dit, je sais que les Français, les Occidentaux ont beaucoup d'expérience. Alors, il y a à boire à manger aussi dans ces expériences. Il y a beaucoup à boire et à manger au niveau de l'interprétation de ces expériences. C'est là où, là, je parle des Walt Disney, New Age, même dans le bouddhisme. Hein, d'accord. Et c'est là qu'on a besoin d'Abhidharma, comprendre la phénoménologie hein, de ces expériences. Mais il disait, par contre, je sais la vacuité de l'esprit. Ça ne relève pas d'une expérience. C'est une réalisation. L'évidence, c'est à même une nature, tu vois. C'est très différent. Et c'est très courageux de le dire. Parce que beaucoup de gens pourraient dire qu'il est vachement orgueilleux. On aime bien quand on entend dire les grands maîtres, je ne suis pas éveillé. Et les autres, ils interprètent, oh, il est modeste. Non, il est vrai, c'est vrai, il n'est pas éveillé. Par contre, il peut avoir des grandes expériences. D'accord, il n'y a pas de problème. Si toi, Rinpoché, il dit, j'ai des expériences, je ne suis pas éveillé. Le Dalma, il dit, je ne suis pas éveillé. Bhikkhu Rinpoché a dit, j'ai réalisé, je sais la vacuité de l'esprit. Je sais, j'ai goûté. Il a même rajouté, et si un Bouddha me dit le contraire, je ne crois pas. Tu vois, c'est le genre bien trempé, quoi. Et connaissant Bhikkhu Rinpoché, ce n'est pas un frimeur, hein, c'est l'humilité en personne. Hein. Bhikkhu Rinpoché et Mochok Rinpoché, pour moi, c'est les émanations de l'humilité. Donc bien aussi, bien cerner ça, hein. Je te fais un peu de théorie quand même, hein. Ça va ? Bien situé. Et à toute expérience, expérience vacuité. Même si c'est une expérience, et puis on est pris de court, hein. On le fait. N'empêche que pouf, le samadhi de cette expérience, et pouf, voilà. Mais ça c'est... La quatrième garantie énoncée par Sakyamuni, à toute expérience, hein, fait intervenir une conscience de la vacuité de cette expérience. D'accord ? C'est-à-dire, arriver à une coémergence, expérience, vide de réalité propre, et vide de réalité propre des trois enfermements. Quelque chose comme étant une expérience, qui vient à quelqu'un comme étant moi, je, au sens d'une entité propre, d'accord ? Et ainsi de suite. les trois enfermements, les trois cercles. Yoga du bardo, c'est après le bardo de la mort de la claire lumière. Alors ça peut se présenter à un certain temps, d'accord, où va se faire donc la claire lumière propre du Dharmakaya, Mahamudra, Bouddhéité, ce qu'on veut comme mot. Et ensuite, une déclinaison, on pourrait dire, hein, une déclinaison de ce Dharmakaya en Sambhogakaya, comme une lumière à l'invisible rencontre un cristal et s'émane sous forme de spectre d'arc-en-ciel ou cinq lumières pour nous, voilà, ça va. L'invisible croise du transparent et ça fait un arc-en-ciel. Et c'est le Sambhogakaya. C'est la déclinaison de cette vacuité dharmakaya, d'accord, du phénomène propre de la vacuité, dharma, hein, kaya, voilà, se décline et là, on a, j'ose pas dire l'apparition, mais voilà, l'émergence des cinq intelligences qu'on appelle Dhyani Buddha. D'accord ? Sur la base, Sambhogakaya, c'est jouir d'intelligence. C'est pas avoir des visions d'Amitabha, ça peut se présenter sous forme de vision, et là, normalement, il faut faire attention. Avec les habitudes, si on a fait que fermer les yeux et se faire une image, un dessin, etc., ce dessin peut peut-être réapparaître. D'accord ? Là, ici, il faut faire l'expérience de l'intelligence que désigne Amitabha, que désigne Akshobhya. Parce que là, c'est les cinq intelligences de ce Dharmakaya. Et ça, c'est un enseignement, on dit, c'est un enseignement propre à Sakyamuni. Il n'y a pas besoin de tantra, là. D'accord ? Et il a défini son éveil en cinq intelligences. Et ça donnait l'enseignement des cinq Dhyani Buddha. Hein ? Cinq intelligences. Cinq sagesse, on dit, mais j'aime bien le mot intelligentiel. Le rapport à tac. À un moment, donc, il y a ce Dharmakaya et c'est une nature triplique. Donc, Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya sont co-émergents, normalement. D'accord ? Hein ? Mais il y a une déclinaison, on va dire. Quand on est dans le Dharmakaya, d'accord, dans ses façons de parler, bien sûr, on est à même sa propre nature d'accord, inconcluable, de pure évidence, hein, d'accord, voilà, et ensuite ça se décline en intelligence. Quelle intelligence a cela? Eh bien, l'intelligence, parce que à chaque moment de conscience, on est à même sa propre nature, hein, mais la première réaction, c'est réaction de peur à l'inconcluable. Donc, sentiment d'impuissance, de peur, ça, qui va créer, au lieu que ce soit Akshobhya, une réaction d'agressivité, et ainsi de suite. D'accord ? Donc, on n'a plus des réactions de peur, d'accord ? Et ça se décline en cinq intelligences plutôt qu'en cinq émotionnels, en cinq kleshas. Donc, pour la bonne cause tantrique, on représente avec des formes anthropomorphiques. Voilà. Mais il ne faut jamais oublier que c'est des intelligences de la nature d'esprit. Et ça, c'est le bardo du dharmata, du phénomène même. Voilà. Phénomène même qu'on appelle l'esprit. D'accord ? Conscience voilà, de soi-même aussi, hein, bien sûr, c'est soi-même. Voilà. Et ensuite vient le bardo du devenir. Donc, c'est plus ou moins reconnu, et ensuite le bardo du devenir, et là, eh ben, on applique, on exécute voilà, le yoga du bardo du devenir, si on s'est entraîné durant sa vie. Pas de panique, si tu as les enseignements du yoga du rêve, tu fais le yoga du rêve. Voilà, c'est une introduction pour cette retraite. Hein. D'accord. Aussi du free, hein. J'ai fait ma petite sauce, hein, je présente comme ça, fonction de mes réflexions, mes expériences aussi. Hein, je prétends avoir des expériences, heureusement. J'enseignerai pas. Ça va aller?
Merci.